Et c'est parti pour le journal de Florence Paracuelos. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bienvenue à tous. Des pensions alimentaires versées par la CAF. Nouveau système à partir du mois de juin pour éviter les impayés. Explication dans un instant. Quand la 36e édition des Journées du Patrimoine a lieu le même jour que la 45e mobilisation des Gilets jaunes, samedi tendu en perspective à Paris, des sites seront fermés à la visite. À la une également, ma personne est sacrée, je suis la République, réplique célèbre, désormais signé Jean-Luc Mélenchon en pleine perquisition l'an dernier. Il comparaît aujourd'hui à Bobigny et dénonce depuis plusieurs jours déjà un procès politique. Le retour de la taxe carbone préconisée par la Cour des comptes, voilà qui intéressera votre invité Nicolas.
Oui, on peut en être à peu près certain. Il s'agit de l'eurodéputé Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot, dans le grand entretien de la matinale. Le standard est ouvert, 01 45 24 7000. Les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter ne ferment jamais.
Dans ce journal aussi, Jean-Pierre Farandou qui reprend les clés de la SNCF, très attendu par les syndicats. Du porc congelé, déstocké par milliers de tonnes en Chine à cause de la peste porcine. Le cannabis au volant, c'est pire que ce qu'on croyait. Et puis la composition du 15 de France avant son premier match en Coupe du Monde samedi face à l'Argentine. Place à la jeunesse.
France Inter.
Près de 2,5 millions de familles monoparentales en France. Le plus souvent, ce sont des femmes qui élèvent seules leurs enfants sous le seuil de pauvreté, dans un cas sur trois. Ces femmes ont pris la lumière pendant la crise des Gilets jaunes. Elles ont ému Emmanuel Macron, qui avait annoncé à la fin du grand débat national un nouveau système de recouvrement des pensions alimentaires quand les conjoints ne payent pas. Eh bien, ça y est, il entrera en vigueur au mois de juin prochain. Bonjour Mathilde Dehimi.
Bonjour Florence.
Ce sont les CAF qui prennent la main.
Oui, précisément, l'agence spécialisée de la CAF pour les recouvrements, l'ARIPA, sollicitée dans seulement 10% des cas, alors qu'un tiers des familles sont concernées par des pensions impayées, souvent par manque de connaissance de cette instance, mais aussi par crainte d'envenimer une situation familiale compliquée. Dès juin, donc, les parents en instance de séparation à ce moment-là pourront solliciter la CAF. C'est à eux d'en faire la demande. Le parent débiteur fournira alors un RIB et sera prélevé chaque mois. En cas d'impayé, la CAF se chargera de lancer les procédures et pourra verser en attendant une allocation de 115 euros par enfant. Si le revenu du parent qui doit payer la pension a lui brutalement chuté, la CAF le verra plus facilement et pourra donc proposer un rééchelonnement.
Et comment ça va se passer pour les familles qui sont déjà séparées et qui ont déjà des problèmes de pension alimentaire?
Elles devront attendre l'application générale de cette nouvelle procédure en janvier 2021, sauf si elles ont saisi d'ici là l'agence de recouvrement de la CAF, un dispositif qui était déjà en place. Là, le gouvernement promet plus de simplification administrative et de plus travailler sur la médiation entre parents. Budget alloué, 40 millions d'euros dès l'an prochain, puis 120 millions par an à partir de 2022.
Mathilde Dehimi, merci. Voici pour cette réponse à l'une des réalités de la crise des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes sur le pavé, en pleine journée du patrimoine. Ils appellent à un rassemblement national samedi à Paris, auquel s'ajouteront une marche pour le climat et une manifestation contre la réforme des retraites organisée par Force Ouvrière. Cette journée du patrimoine 2019 sera donc particulière. David Di Giacomo, plusieurs sites emblématiques seront fermés.
Impossible ce week-end de visiter les ministères de l'Éducation nationale et de l'Agriculture. Ils ont décidé de fermer leurs portes. Les loges maçonniques parisiennes annulent également leur participation aux journées du patrimoine, tout comme la préfecture de police, trop occupée à gérer les manifestations annoncées samedi, avec en ligne de mire l'appel national des Gilets jaunes à venir sur Paris. Il va mobiliser une très grande partie des effectifs de police parisiens. De son côté, le ministère de l'Intérieur ouvre bien au public samedi, mais seulement en matinée, et comme à l'Élysée ou encore à l'Assemblée nationale, un système de préinscription en ligne a été mis en place pour la première fois cette année, officiellement pour éviter les très longues files d'attente, mais d'autres sources expliquent que c'est surtout une question de sécurité, alors que des appels à la violence sont relayés sur les réseaux sociaux depuis déjà plusieurs semaines.
Voilà, des renforts de police seront déployés samedi à Paris. Mélenchon, gilet jaune, même combat. La stratégie de la France insoumise est rodée au premier jour du procès de son leader à Bobigny, jugé avec cinq de ses proches pour s'être opposé à la perquisition du siège siège du mouvement en octobre l'an dernier, opération menée dans le cadre de deux enquêtes, l'une sur les comptes de la campagne présidentielle, l'autre sur les assistants au Parlement européen. Jean-Luc Mélenchon veut faire de sa comparution une tribune contre un pouvoir qui persécuterait ses opposants. Ariane Grissel, vous êtes au palais de justice de Bobigny où l'on s'attend à un chaud Mélenchon, déjà largement défloré ces derniers jours.
Et oui, Jean-Luc Mélenchon dénonce depuis plusieurs semaines un procès politique fondé sur ce qu'il appelle la doctrine du lawfare, autrement dit l'utilisation de la justice pour nuire à l'opposition. Il en a même fait un livre publié aujourd'hui. Le leader de la France insoumise n'a pas attendu non plus la salle d'audience pour affronter l'un des avocats de la partie civile, tout aussi médiatique, Éric Dupond-Moretti. En conférence de presse, le député l'accuse de connivence avec l'Élysée. Réponse de l'avocat, je lui conseille une petite camomille pour se calmer. Dans ces joutes oratoires, on en oublierait presque que c'est la justice qui aura le dernier mot. Les prévenus risquent jusqu'à 10 ans de prison, 150 000 euros d'amende. Prévenus, soutenus ce matin par une quarantaine de militants élus France Insoumise, rassemblés en ce moment ici devant le palais de justice. En tout, 17 victimes se sont déclarées dans cette affaire, du personnel judiciaire qui a participé à la perquisition, policiers, gendarmes. Beaucoup de monde, donc, vous l'aurez compris, attendu ici, à tel point que c'est la grande salle des assises qui a été retenue pour ce procès en correctionnel. Sous réserve qu'il ait bien lieu, puisque c'est la grande incertitude de cette matinée. Les dossiers communiqués aux différentes parties étaient incomplets. Une demande de renvoi doit donc être examinée en ce début de journée.
Ariane Grissel devant le palais de justice de Bobigny avec Martin Troidec. Pas de coup de rabot sur l'aide médicale d'État dont bénéficient les sans-papiers. Agnès Buzyn, qui s'y opposait, aurait obtenu gain de cause. Selon le journal L'Opinion, le sujet ne serait pas au menu du budget 2020, malgré un audit commandé par le gouvernement et remis le mois prochain. D'ailleurs, 35 députés, principalement de la majorité, appellent dans une tribune à ne pas toucher à l'AME. Il faudrait en revanche raboter le crédit d'impôt pour l'emploi à domicile. Deux députés En Marche mettent les pieds dans le plat. L'argent public n'a pas vocation à financer des jardiniers, un coach sportif ou un secrétaire particulier pour le confort des plus aisés, dit Émilie Cariou de la Commission des Finances de l'Assemblée dans les colonnes du Figaro. Il faudrait donc, dit-elle, sortir ces métiers de la liste et plus globalement baisser la ristourne du fisc pour les foyers les plus riches.
Il est 8h07, son visage lui va devenir vraiment familier.
Et oui, c'est lui qu'on verra bientôt dans les moments de crise ou pour parler des nouveaux tarifs du train. Jean-Pierre Farandou, 62 ans, choisi par Emmanuel Macron pour diriger la SNCF après Guillaume Pépi, c'est le patron de Keolis, la filiale de transport en commun de la SNCF qui gère les réseaux lyonnais et bordelais entre autres. C'est lui qui aura la lourde charge de transformer le rail français qui va s'ouvrir à la concurrence l'an prochain et puis d'amorcer aussi la fin du statut de cheminot. Yann Gallix, c'est dire si son CV est scruté par les syndicats.
Jean-Pierre Farandou travaille à la SNCF depuis 1981. Il a commencé comme chef de gare avant de gravir tous les échelons au sein de l'entreprise. En 2012, ce proche de Guillaume Pépi a pris la tête de Keolis, la filiale de transport en commun de la SNCF. C'est donc un homme du sérail et qui jouit d'un a priori plutôt favorable auprès de certains responsables syndicaux, comme Roger Dylan-Seguer de l'UNSA Ferroviaire.
C'est quelqu'un qui connaît le ferroviaire et je pense que ça pourrait être un atout pour les cheminots. Là, on est en train de reconstruire un groupe public ferroviaire unifié avec 5 sociétés anonymes, un cadre social à redéfinir. On a besoin d'un cheminot qui maîtrise le sujet et je pense que Jean-Pierre Farandou a tout à fait l'étoffe de mener cette affaire.
Un choix qui ne rassure pas forcément tous les cheminots. Xavier Brégaille est conducteur de RER en région parisienne et militant du syndicat Sudrail.
Jean-Pierre Farandou, quand on voit la politique qu'il a appliquée chez Keolis depuis 2012, ça ne nous rassure pas du tout. C'est filialisation à marche forcée, hausse de la productivité, enfin voilà, c'est des choses qu'on n'a pas envie de voir dans le ferroviaire public, quoi. Et Jean-Pierre Farandou, c'est clairement pas un cheminot. Il a été mis à ce poste-là pour finir le travail que Guillaume Pépi a attaqué depuis des années.
Le futur PDG devra convaincre les syndicats et les cheminots pour mener à bien l'immense chantier de transformation de la SNCF qui deviendra une société anonyme à capitaux publics à partir du 1er janvier prochain.
Et d'ici là, la CGT Cheminots et Sudrail appellent à la grève mardi prochain contre la réforme ferroviaire et contre la réforme des retraites. Paris et Rome sur la même longueur d'onde. On n'avait pas vu ça depuis un an et demi sous l'ère Salvini. Emmanuel Macron en Italie hier soir chez le chef du gouvernement italien, bien les deux hommes se sont entendus sur l'immigration. Ils veulent un mécanisme automatique de répartition des demandeurs d'asile en Europe avec des sanctions financières pour les pays qui ne joueraient pas le jeu. De nouvelles sanctions américaines contre l'Iran, annoncé hier par Donald Trump. On en connaîtra le détail dans 48 heures. Pendant ce temps-là, son chef de la diplomatie était à Jeddah, où il a dénoncé l'acte de guerre de l'Iran contre deux sites pétroliers saoudiens samedi. Et puis quand Donald Trump autorise l'utilisation de la réserve stratégique de pétrole américaine, en Chine, c'est la réserve de porc qu'on entame. 10 000 tonnes de cochons congelés mis sur le marché aujourd'hui à cause de la peste porcine qui ravage les élevages. On estime que la moitié des 400 millions de porcs chinois pourraient succomber. Une catastrophe dans un pays où c'est la viande la plus consommée. Dominique André est à Pékin pour France Inter.
L'épidémie fait des ravages en Chine. Arrivée d'Afrique, la peste porcine décime depuis l'an dernier les troupeaux de porcs. Difficile à contrôler en l'absence d'un vaccin, elle se répand dans toute la Chine et s'est étendue avant-hier officiellement à la Corée du Sud. La Chine est le premier producteur mondial de porcs avec un cheptel estimé à 400 millions d'animaux. Les cochons sont élevés principalement dans des fermes familiales. Des mesures drastiques ont été prises par le gouvernement et des petits éleveurs comme M. Chang sont ruinés. Les dédommagements qu'ils ont touchés sont si dérisoires.
À cause de la peste porcine, nous avons beaucoup perdu. Les gouvernements locaux ont donc mis en place des mesures extrêmes. Même quand les porcs ne sont pas malades, ils te demandent d'abattre le cheptel pour éviter qu'ils soient infectés. Tous les éleveurs du pays ont peur. Cette maladie n'est pas transmissible à l'homme, mais elle est très grave pour les porcs. Entre l'apparition des symptômes et la mort, il n'y a que 2 ou 3 jours. C'est impossible de les sauver.
À défaut d'enrayer l'épidémie, le gouvernement essaie de diminuer l'impact économique en débloquant les réserves stratégiques de cochons congelés pour faire baisser les prix. Pékin, Dominique André, France Inter.
Au Japon, 3 anciens dirigeants de TEPCO, la société propriétaire de la centrale de Fukushima, ont été acquittés ce matin. Ils étaient poursuivis pour négligence après l'explosion et la fusion de 3 réacteurs en 2011. En France, l'Agence nationale de santé publique va surveiller les cigarettes électroniques. Un dispositif de veille sera mise en place pour faire remonter les cas d'intoxication au vapotage, alors que 7 décès ont déjà été recensés aux États-Unis. Le pays s'apprête d'ailleurs à interdire les liquides aromatisés.
Il est 8h12 et qu'en est-il du cannabis au volant?
Eh ben, on sait qu'il serait responsable de 700 morts chaque année en moyenne sur la route parce qu'il diminue les réflexes. Évidemment, ce qu'on sait moins, c'est que les fumeurs occasionnels sont plus sensibles à ces effets qui durent bien plus longtemps pour eux. C'est le résultat d'une étude menée par des chercheurs de l'APHP qui ont fait fumer de vrais pétards à leur panel, Lisa Guyenne.
D'habitude, les essais sur le cannabis sont menés avec des sprays ou des cachets. Mais cette fois, pour se rapprocher au mieux de la vraie vie, les chercheurs ont fait fumer de vrais joints à leurs cobayes. Le professeur Jean-Claude Alvarez, chef de service pharmacotoxicologie à l'APHP, co-auteur de cette étude.
On a fait fumer des jeunes qui consommaient soit de manière occasionnelle, soit de manière chronique du cannabis, des joints que l'on avait vraiment préparés avec soin et que l'on avait bien dosé au niveau de ce qu'il y avait à l'intérieur.
Les 30 volontaires ont donc fumé ce cannabis provenant de saisies policières avant de conduire sur des simulateurs. Les conclusions de l'expérience sont inédites.
Ça permet déjà de savoir que les effets durent 13 heures chez un occasionnel et 8 heures chez un chronique. Donc ça veut dire que quelqu'un qui fume un cannabis, si c'est pas un fumeur chronique, il faut qu'il attende 13 heures avant de reconduire.
Par ailleurs, le temps de réaction des fumeurs occasionnels augmente de 27% contre 11% chez les fumeurs chroniques. Enfin, les tests de dépistage salivaire ne s'avèrent pas assez efficaces.
On montre également que les dépistages salivaires marchent très bien au début et puis ça décroît rapidement. Grosso modo, au bout de 5 heures, après avoir consommé, vous ne dépistez plus qu'une personne sur deux. Entre 8 et 10 heures, tout est négatif.
Aujourd'hui, les stupéfiants sont toujours impliqués dans un quart des accidents mortels de la route.
Trop de pénurie de médicaments, les laboratoires pharmaceutiques convoqués chez le Premier ministre. Aujourd'hui, un quart des Français se seraient vus refuser au moins un médicament ou un vaccin à la pharmacie l'an dernier. France-Argentine, samedi, 9h, Nicolas. Premier match des Bleus en Coupe du Monde de rugby. Vous avez mis votre réveil, évidemment. Et ça y est, on a la composition de l'équipe. Bonjour Fanny Chevestrier.
20 ans, le plus jeune Français de l'histoire participant à une Coupe du Monde, 8 sélections seulement avec le 15 de France, mais c'est donc bien Romain Tamac, le Toulousain, qui sera titulaire dans 2 jours pour le début des Bleus dans la Coupe du Monde. Ce qui a séduit le sélectionneur Jacques Brunel, c'est son allant, sa vivacité.
Il a montré tout au long de la préparation beaucoup d'allant. 20 ans, je crois qu'il y en a, Dupont en a 21, Aldrit en a 22. Je ne pense pas, on a une équipe qui est à des postes important, une équipe jeune, mais mise sur l'enthousiasme de ces joueurs-là.
Romain Tamac, sacré champion du monde des moins de 20 ans l'an dernier, certes talentueux, qu'on dit hermétique à la pression et insouciant, mais quand sera-t-il samedi au moment des hymnes? Puis avec la lourde responsabilité du jeu au pied face à une équipe telle que l'Argentine et un poste d'ouvreur qui n'est plus forcément le sien avec le Stade toulousain. Le gamin tentera en tout cas de marcher dans les traces de son père Émile, deux Coupes du Monde à son actif, une demi-finale en 1995 et une finale en 99. Ce jour-là, Romain était déjà sur le terrain, âgé de quelques mois, dans les bras de son père. À Tokyo, Fanny Lechevestrier, France Inter.
Voilà pour la surprise de cette sélection, sa jeunesse. Donc, enfin, qui a dit que le PSG n'était rien sans ses vedettes? Les Parisiens flamboyants, hier, sans Neymar, Mbappé et Cavani, ont réussi à battre le Real Madrid 3-0 au Parc des Princes. Une belle entrée en matière. En Ligue des Champions, on la doit à Di Maria, deux fois buteur, et à Thomas Meunier contre le Real, 13 fois champion en Ligue des Champions.
De toute façon, c'est une équipe qui a été supérieure ce soir, il n'y a rien à dire. Je pense qu'ils ont mérité de gagner leur match. Ils ont été très bons à tous les niveaux et nous, on a été moins bons. On n'a pas été performants et à ce niveau de la compétition, dans une compétition comme celle-là, si le niveau, si le rythme n'est pas élevé pour nous, c'est très compliqué. Donc c'est ce qui s'est passé ce soir. On a joué contre une équipe qui nous a mis sous pression, qui était très bon à tous les niveaux et qui nous a marqué 3 buts.
Et ben voilà, vous avez reconnu, c'était Zizou, Zinedine Zidane, revenant au Real Madrid et puis dépité après ce match d'hier soir et cette première défaite.
Merci Florence Paracuelos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va?
Et ce jeudi, Marie-Pierre, est la journée la plus fraîche de la semaine.
Oui, avec cette bise de nord-est soufflant sur la moitié nord jusqu'à 60 km/h, le mercure a bien pâli et descendu ce matin à 1 degré à Bulle dans le Haut-Rhin. Vous n'avez pas plus de 3 dans la Creuse, pas plus de 7 à Abbeville dans la Somme. Grand écart avec les 22 au Cap-Corse et 21 à Nice. Ce rafraîchissement est dû donc à cette bise qui va encore souffler. Et côté ciel, comme les jours précédents, on va retrouver quelques nuages bas près des côtes du Nord-Pas-de-Calais ce matin, mais aussi près des côtes aquitaines jusqu'en Occitanie, avec une averse possible ce matin, ainsi que sur le sud des Alpes. Partout ailleurs, c'est plein soleil et ciel bleu.
Et cet après-midi, l'ambiance deviendra orageuse dans le sud.
Oui, d'abord dans le sud-ouest, on a de l'instabilité qui remonte d'Espagne, et puis sur le sud-est, on a de l'instabilité qui vient d'Italie. Donc toute cette instabilité apportera des averses orageuses cet après-midi des Pyrénées au sud du Massif central, mais également sur le relief corse et alpin, touchant l'est de la Provence. Et entre le golfe du Lion et le Mercantour, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies. Le soleil dominera la situation sur les autres régions, avec pas plus de 18 de la côte d'Albâtre au Cap Grinet, 19 à Lille et Épinal, 20 à Strasbourg, 21 à Paris. Il fera 23 à Saint-Flour dans le Cantal, 24 à Grenoble et Hendaye, comptez 26 à Bastia, 29 à Montpellier et 30 à Cahors et Nîmes.